France Musique. France Musique, les grands entretiens. Thomas Verkracht.
Je m'appelle Thomas Hades. Je suis né à Londres le 1er mars 1971. Je suis compositeur, pianiste, chef d'orchestre. J'ai 50 ans.
Thomas Sadès, à quel âge vous commencez à donner vos premiers concerts, vos premiers récitals de piano?
En public, ça serait 15 ans, 16 ans. Mais chez nous, je faisais des programmes pour ma mère. J'ai rempli un papier avec toutes les pièces qu'elle pouvait choisir.
Et Thomas Sadès, comment on se sent lorsqu'on est enfant ou adolescent à 15 ans et qu'on entre seul sur scène avec un piano?
Nerveux.
Nerveux?
Oui, oui.
Parce que vous êtes d'une nature plutôt réservée et timide. Comment ça se passe, justement, quand on doit s'exprimer avec l'instrument comme ça et seul face au public?
Je préfère diriger parce qu'on a le dos au public. On ne voit pas les rangs de gens. Pour moi, l'expression musicale est tout. Alors, je pourrais pas être un compositeur qui ne performe pas.
Un compositeur, ça doit jouer de la musique quand même.
Pour moi. Papa, je suis jaloux de mes amis compositeurs qui ne jouent pas en public, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il a beaucoup plus de temps d'écrire. Mais moi, je pourrais pas être comme ça. Il me faut toucher, de sentir la musique.
Mais c'est un petit peu paradoxal ça, Thomas Hades, puisque vous dites que vous ne vous considérez pas vraiment comme un pianiste et que en même temps vous vous sentez obligé d'en jouer quand même et de faire quelques récitals.
Non, je veux. Un pianiste qui jouerait tous les sonates de Beethoven, pour moi ça prendrait tant de temps. Il faut que j'écris, mais en même temps Je suis un musicien peut-être qui s'exprime à travers le piano. C'est difficile à dire. Quand j'entends la musique, par exemple, de Liszt, si, il est pianiste, mais il est aussi scientiste.
Scientifique.
Scientifique, oui. Il trouve les cellules qui sont sonores au piano et il expérimente avec ces cellules. Et ok, c'est très pianistique, en guillemets, mais c'est une sorte de scientifique sonore.
Et vous vous voyez aussi comme ça, comme un scientifique sonore?
J'espère.
Alors Thomas Hades, en 1988, vous partez pour la Hongrie, étudiez avec Gyorgy Kurtág. Vous connaissiez bien sa musique à l'époque?
Ça, c'était quelque chose. rencontré cette homme la première fois. On jouait Bartok de piano avec un ami, un collègue de Guildhall à Londres. On est allé en Hongrie. Et en Angleterre, on ne rencontre pas très souvent les gens qui sont complètement donnés à la musique, comme ça. Et ça m'a fait peur un peu, les premières journées, parce que c'est une sorte de...
Courtag, il ne vivait que pour la musique, c'est ce que vous nous dites.
C'est ça. Et c'était quelque chose, un défi pour moi, à l'âge de 17. Mais être en Hongrie, jouer le Bartok pour lui, j'ai compris pour la première fois que c'était pas quelque chose dans un livre, quelque chose sur un disque.
C'était vrai quelque part.
Oui, c'était vrai, c'était la langue, c'était pas seulement les mélodies hongroises, c'est ça, mais c'est une façon de penser, une façon de ressentir les choses.
Qu'est-ce qu'elle avait, cette façon de penser, de ressentir les choses en hongrois?
C'est les images musicales exprimaient les réalités de la vie quotidienne. C'était tout lié, le corps, l'âme, dans la musique.
Qu'est-ce qui vous parlait tant dans la musique de Courtag?
Je dirais une sorte de conscience des fantômes qu'une phrase musicale peut être et est hantée. Et que, comme il m'avait dit un jour, même le beau peut être effrayant.
C'était encore les chimères dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ça qui vous parlait dans la musique de Courtag, ce non-dit.
C'est plus des chimères qui sont réelles. Les chimères, les fantômes, les mémoires, ils ne sont pas chimériques, ils sont là. Les fantômes sont vraiment là. Quand on entend une pièce de Courtag, on est vraiment dans une sorte de forêt transylvane qui est hantée.
À quoi ça ressemblait, ces cours de piano à Gyorgy Courtag?
C'est comme quelqu'un qui vit toutes les phrases. On le voit vivre les phrases, et pas seulement l'émotion, mais les cellules, l'analytique, pour lui, c'est la même chose. C'est une sorte de parler la langue de la musique comme si c'était la langue du corps, ou la langue de l'âme. Par exemple, j'ai appris avec lui... Le trio E-flat major Beethoven.
Le trio en mi bémol de Beethoven.
Oui, il a interprété la pièce comme le Tempest de Shakespeare, que lisait Beethoven à cette époque. Je suis complètement convaincu qu'il avait raison. Il a trouvé Miranda, Ferdinand, Ariel, Prospero dans la pièce. Et je suis sûr que c'était pas inventé, c'était pas de Courtag. Je suis sûr qu'il avait raison, c'est complètement. Alors c'était pour lui de lire quelque chose d'abstrait, comme une sonate de Mozart, ou je sais pas, comme roman, comme poème. Et même si on ne parlait pas de caractère, mais une façon d'expliquer la philosophie ou la narrative dans la musique.
Le sens du drame et de la narration de vos œuvres, oui. C'est de Courtag que ça vient?
Je sais pas, c'est peut-être une parallèle, mais je sais pas si c'est... Mais ça m'a permis de penser comme ça, c'est une sorte de pensée que j'ai voulu.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Thomas Hadès.
Thomas Hadès, lorsque vous apprenez le piano par vous-même, quelle est la place de la virtuosité pour vous ?
Ouvrir une fenêtre sur l'impossible, sur l'étrange, le surnaturel, le féerique, les choses qui ne sont pas... Le mystère, c'est ça.
La virtuosité, c'est mystérieux.
Bien sûr. Complètement. Ça doit. Si on peut voir comment, alors c'est pas la virtuosité.
Thomas Hadès, est-ce que dans vos œuvres, dans vos compositions, la difficulté d'interprétation, ça va de soi? Parce que beaucoup de vos œuvres sont très virtuoses et demandent beaucoup aux interprètes.
J'essaie d'être de plus en plus professionnel. Pour moi, toute la différence entre l'impossible et le difficile. L'impossible, si c'est impossible, je crois que c'est pas tout à fait professionnel. Mais si c'est difficile, peut-être ça demande un peu de devotion, you know, de donner de soi. Mais souvent, j'écris quelque chose. Quand je l'écris, je pense pas ça doit être difficile, ça va être difficile. J'espère que non, j'espère que ça va être naturel. Peut-être, c'est peut-être pour trouver ce qui, the connection is transcendence.
Que la virtuosité, ça donne un côté de transcendance, transcendantale à la musique.
C'est là.
Faut se dépasser, quoi.
Oui, parce que si on cherche ça, ça peut être dans quelque chose qui n'est pas difficile à jouer aussi. Mais c'est pour ça que les choses deviennent difficiles.
Thomas Hadès, est-ce que vous êtes de ceux justement qui pensent qu'en écrivant des œuvres virtuoses, on repousse tellement les limites de l'interprète que ça le fait aller autre part musicalement ?
Oui, ça peut être, par exemple, pour écrire la partie d'aria.
Donc la soprano coloratura très aiguë dans La Tempête, dans votre deuxième opéra.
Oui, et le caractère n'est pas humain, c'est le vent.
Alors il fallait écrire quelque chose d'inhumain.
Oui, c'est ça.
Première pièce d'ensemble pour 10-15 musiciens, on est aussi frappé par cette virtuosité dans la Chamber Symphony ou dans Living Toys. C'est quelque chose qui était essentiel pour vous ? Et à la fois cette virtuosité d'exécution et dans l'échange des timbres et de l'écriture même.
I think I like adrenaline. I think it excites.
Vous aimez l'adrénaline ?
Oui. C'est ça. Mais aussi, je pense que j'aime l'émotion. J'aime. Être transporté quand j'écoute la musique, être transporté autre part. Et la vie est autre part, comme dit Breton.
Et la virtuosité, ça vous fait aller autre part ?
Oui, exactement. Oui, littéralement. C'est une sorte de véhicule transporté en un autre royaume.
C'est amusant parce que souvent, quand on pense à la virtuosité, on pense à des études, à des choses très qui sont purement difficiles. Et chez vous, la virtuosité, elle est toujours synonyme d'émotion aussi. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, pour moi, seulement jouer rapidement, jouer accurate, ça c'est pas. Non, pour moi, ça c'est pas la virtuosité. Il y a plus de ça. C'est plus de ça. Il faut être aussi sans effort apparemment. Alors, c'est vraiment une magie.
Et je repense aussi à votre paraphrase de concert sur les thèmes de votre premier opéra, Powder of Face, que vous avez arrangé récemment pour deux pianos, tellement la partition était difficile, puisque vous étiez presque le seul pianiste à jouer cette œuvre.
Non, il y a d'autres fous et admirable pianistes. Quand je l'ai écrit la première fois, pour moi seul de jouer, vraiment, c'était comme un enregistrement de moi-même au piano, essayant de me rappeler de mon opéra. Et c'est comme ça, c'est comme si j'ai mis une tape recorder.
Un enregistreur.
Un enregistreur pour attraper moi-même, improviser, mais essayant de me souvenir de ma musique. Parce que je cherchais à recréer les sonorités de l'orchestre, des voix. Il fallait faire des choses sur le piano qui étaient un peu virtuoses, magiques, de créer les choses qui ne sont pas peut-être là, mais sont créées par les effets. Et en les écrivant, je l'ai joué, j'ai joué les premières à Vancouver. Et après, je l'ai laissé pour 3 années, 4 années. Et il fallait return to it. Et là, je me suis rendu compte que c'était très difficile. Presque, j'ai pas assez de doigts. En effet, c'était dans un atelier où il y avait deux pianos. Je me suis pensé, s'il y avait un autre pianiste, ça serait beaucoup plus facile. Oui.
Thomas Sadès, si l'on revient à vos premiers essais de composition, comment on se forge un style quand on commence à écrire de la musique ?
Instinct, un peu. Et il faut se reconnaître. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Et c'est un instant de reconnaissance. Aussi, ça pourrait prendre des journées, des semaines, mais il y a toujours un sentier qui est là, qu'il faut trouver. Avec expérience, on peut le sentir un peu. On est comme jardinier, on est comme sculpteur. Souvent, c'est réduire qui prend le temps. Je commence avec beaucoup de matériel et je coupe comme c'était du clay, de porcelaine.
Vous avez parlé de construire un sentier, enfin de suivre un sentier. C'est la nécessité intérieure que vous aviez quand vous étiez très jeune de composer ?
Je crois que c'est la nécessité de la musique qui est dans moi, qui est hors de moi, je sais pas, mais c'est sa nécessité, it's the music. Et c'était ma fonction à moi de les
façonner.
Oui, de les façonner, mais de les libérer. C'est pour ça.
Ça veut dire que quand vous étiez jeune, ou en tout cas quand vous avez commencé à écrire sérieusement, vous entendiez déjà votre sonorité, votre style, il était déjà là.
C'était une question de le libérer, de le trouver, de le chercher fil à fil. C'était un nœud, et il me fallait...
défaire le nœud.
Voilà.
Et on peut lire dans l'ouvrage qui existe en français, signé par la musicologue Hélène Cao, sur votre musique, que vous avez mis au jour votre style, votre échelle typique qu'on reconnaît instantanément dans toutes vos œuvres. Vous l'avez mise au jour et vous ne l'avez pas vraiment cherché. C'est quelque chose que vous avez trouvé comme ça, comme si on trouvait quelque chose par terre. Vous l'avez juste trouvé.
Vraiment, les questions de style, c'était pour moi la nécessité. C'est survivre. On est jeté à la piscine, on doit nager immédiatement. Alors, si c'est le tango, si c'est la musique baroque, je vais me servir de ça. I'm going to use anything I can pour ne pas noyer.
Thomas Adès, quand on commence à composer, est-ce qu'on se place tout de suite face à des modèles du passé ou on essaye au contraire de tout casser?
Nous, on peut pas tout casser. C'est pas une chose.
On est obligé de se positionner par rapport.
On n'a pas le choix. On peut prétendre, mais c'est une pause. C'est pas possible. Mais parce que si vous cassez la branche, vous êtes là, mais sur le terre, la terre. Mais la branche est là et vous êtes là.
Thomas Adès, vous aimez et vous dirigez souvent les œuvres de Britten, de Michael Tippett. Vous faites un clin d'œil à la musique d'Elgar dans votre Quatuor Arcadiana. Alors pour vous, comment on pourrait tenter de définir la musique anglaise?
Oui, on pourrait commencer avec Purcell, parce que toujours, c'est pas, on voit Purcell, on voit Elgar, c'est très anglais, cette musique, mais il regarde le continent d'Europe. Purcell, la musique est un peu française, mais l'émotion est très anglaise.
Qu'est-ce que c'est l'émotion anglaise qu'il y a chez Purcell?
Oh. Oui. Il s'agit de joie extrême, de deuil extrême. C'est très, très fort, c'est une émotion très forte. Ce qu'il exprime dans une chanson, il exprime totalement, avec tous les contrepoints, everything. Intense emotion, I think.
Des émotions intenses.
Oui, et aussi Elgar, je trouve ça. Entre les deux, la musique du 19e, c'est plus comme Lewis Carroll, ça s'est caché, mais c'est là, mais c'est étrange. Les Anglais sont étranges. On est connu pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais on est, parce que c'est, je dirais que nous avons peut-être un brouillard qu'on peut se cacher comme un calamari sous encre. Bang, l'anglais disparaît dans un brouillard. On peut parler, hein, et soudain, où est-il?
C'est comme quand on se cache sous le lierre dans un jardin quand on est enfant.
Ah, peut-être, oui, peut-être. Oui, c'est ça. Mais en Elgar, en Purcell, il n'y a pas de brouillard.
C'est direct.
C'est très direct, en soleil, en plein lumière.
En pleine lumière, ensoleillé. C'est exactement les mots qu'inspire cette passacaille, How Happy the Lover, tirée du King Arthur de Henry Purcell, ici par l'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier. On se retrouve demain pour le 4e épisode de nos grands entretiens avec Thomas Adès, dans lequel on pénétrera dans l'atelier du compositeur et où l'on verra la musique à la fois comme un enfant difficile et comme un fragile linceul que l'on vient poser sur le néant. Les grands entretiens avec Thomas Adès, prise de son Emmanuel Armin, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Marie Ferdinand, une réalisation de Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.